Bonsoir. Le Premier ministre expliquait hier qu'il n'y aurait pas de cagnotte fiscale. Les recettes nées de la croissance iront au désendettement. Et c'est vrai que 2018, cette nouvelle année, démarre avec beaucoup d'enthousiasme. Jusqu'où montera le PIB de la France? 2% plus? Bon, à voir, évidemment, bien sûr. Oui, et que faire ensuite de cette croissance? Des emplois, des investissements, des recettes fiscales? Accélérer peut-être les réformes? Tiens, justement, oui, il faut raison garder, parce que finalement, cette tendance, oui, elle n'est pas exempte de risques. Tenez, regardez par exemple, eh bien, les difficultés qu'ont les entreprises de recruter. Alors pourquoi ne faut-il pas gâcher 2018? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Il va falloir bien s'en occuper, la chouchouter cette année 2018, justement, voir à quoi elle va ressembler. Les décodeurs de l'écho, comme tous les soirs, avec les meilleurs experts, les meilleurs acteurs, bien entendu. Jean-Michel Six est avec nous, chef économiste de l'agence de notation S&P Global Ratings. Avec nous, Pascal Imbert, président de Webstone, qui est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne notamment les grandes entreprises dans leur transformation numérique. 2500 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays. Avec nous, Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, et Benjamin Frémaux, qui est associé de la banque d'affaires Messier, Maris et Associés, qui est également membre de l'Institut Montaigne. Alors, fin décembre, et c'est vrai qu'on vous en a largement parlé pour terminer en beauté l'année 2017, c'était l'INSEE qui réévaluait une nouvelle fois donc ces chiffres pour la croissance en 2017, en raison d'une production manufacturière nettement plus dynamique que prévu, plus 5,9% pour cette croissance. Jean-Michel Six, la France, elle va rester dans la cadence. Comment est-ce que la France aborde donc 2018?
Je crois qu'on a des vents très favorables. On a un environnement international qui incontestablement porte notre commerce extérieur, même si c'est pas forcément en 2017, c'est pas forcément c'est le mieux passé en France.
Pas le meilleur souvenir.
Mais il y a effectivement une dynamique incontestable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une dynamique qu'on voit assez bien au niveau des entreprises et des investissements. Alors, après, il y a aussi un phénomène de rattrapage qu'il faut admettre. C'est-à-dire que quand on approche de 2%, il faut se souvenir que toute la zone euro a connu deux récessions successives après 2008. C'est la seule région, dans les pays développés qui ait connu deux et non pas une récession. Donc, de ce fait-là, il y a un rattrapage qui se fait aussi bien en Espagne qu'en Italie, qu'en France. En Allemagne, il a commencé plus tôt. Mais de façon générale, oui, je crois qu'il faut reconnaître qu'on aborde 2018 dans des conditions probablement sans précédent depuis 2008.
Sans précédent, mais exceptionnel quand même ou pas cette progression? Je voudrais pas qu'on s'emballe non plus. C'est bien.
Non, il s'agit pas d'avoir
pas notre plaisir, bien
il
sûr.
Il s'agit pas de faire preuve d'un optimisme béat, ouais. Mais il faut aussi reconnaître quand il y a des bonnes nouvelles qu'elles sont là et que effectivement, on a par exemple à la fois une reprise des pays émergents et des pays développés visible aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration où les deux jambes en quelque sorte de l'économie mondiale avancent simultanément, alors que depuis encore une fois depuis 2008, on n'a jamais eu cette configuration. D'autre part, on a des politiques monétaires qui restent extrêmement accommodantes, même si la Réserve fédérale commence un peu à réduire son bilan. De façon générale, il n'y a pas de contraction de la liquidité mondiale du tout. Les taux de la BCE vont rester extrêmement bas d'ici jusqu'à 2019. Donc, il y a quand même un environnement extrêmement favorable. Après, c'est là où on voit effectivement dans quelle mesure on peut vraiment bénéficier de cette reprise internationale et domestique au niveau du chômage en particulier, qui est quand même le point le plus décevant de la conjoncture aujourd'hui. On est au-dessus de 9% en France de chômage avec une forte accélération de la croissance. Bon, ça, il est certain, on va certainement en parler, que là, on a un problème, mais qui est déjà, je dirais presque malheureusement, un problème structurel. Là, on rentre déjà dans le dur, on est déjà face à des obstacles structurels, des obstacles qu'on peut pas enlever du jour au lendemain.
Bon, alors, on a vu donc une croissance qui s'est accélérée donc en 2017. Oui, ça va se poursuivre. Combien la croissance, il y a Emmanuel Lechypre, hein?
Ah, oh, ça tombe sur moi.
Bah oui.
Irma le Chypre, c'est bien fini.
Non, mais je crois qu'on
Benjamin, c'est sa première dans les décodeurs d'écho. Je voulais surtout pas le piéger.
On est sur des indicateurs qui effectivement, petit à petit, ont retrouvé, notamment tous les indicateurs de confiance, etc. Ont retrouvé les niveaux de la reprise technique de 2010-2011. Mais on voit bien qu'à l'époque, on était surtout sur un rebond qui était consécutif à la récession de 2009. Et puis petit à petit, on a retrouvé les niveaux de 2007-2008. Et maintenant, sur plusieurs indicateurs, on retrouve des niveaux qui sont similaires à ce qu'on avait au début des années 2000. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur les prochains trimestres.
Le Premier ministre se voit plutôt dans la logique d'un taux de croissance d'1,7% en 2018.
Non,
il
est excessivement prudent, ouais, parce qu'effectivement...
Pour annoncer des bonnes surprises ensuite.
Ne serait-ce que si vous tenez le tableau de marche de l'INSEE, qui n'est pas délirant, qui est autour de 0,4-0,5 au premier semestre, hein, à la fin du premier semestre, vous avez déjà une croissance cumulée pour 2018 qui est de 1,7%. Ça veut dire que si la croissance s'arrêtait net le 30 juin et était nulle tout au long
du reste de l'année,
on aurait déjà 1,7% de croissance. Vous voyez bien que c'est pas le scénario le plus probable. Donc on fera sans doute autour de 2, voire un peu plus en 2018, ce qui sera effectivement par rapport à ce qui était prévu dans le budget, ce qui laisse des marges de manœuvre dont on pourra discuter. Mais effectivement, on est plutôt sur ce rythme-là, sachant que on a une croissance qui converge, hein, des rythmes de croissance qui convergent entre les grandes zones, mais sachant que toutes les régions et tous les pays ne sont pas au même stade du cycle économique.
Oui, Benjamin Frémaux, associé de la Banque d'affaires Messier Maris, associé au Confin, justement, et vous les voyez, ces entreprises, ces chiffres, évidemment, ne vous étonnent pas. On est bien parti. Pourquoi la France, elle se porte mieux?
Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est l'effet confiance et qui est l'effet Macron. Alors, il y a effectivement eu ce phénomène de rattrapage lié au cycle électoral. Et c'est vrai que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a eu une dynamique qui était très forte, notamment à l'international. Je rappelle le classement de la France en tête pour The Economist comme pays de l'année de 2017. Donc c'est très intéressant de voir que les investisseurs étrangers et la perception des étrangers sur la France a radicalement changé. Alors c'est vrai qu'on a un président qui est jeune, qui est réformiste, qui accepte l'ouverture notamment internationale, et donc on a une dynamique à la fois en termes de chiffres, ça a été rappelé, les chiffres de l'INSEE sont là pour le dire, mais également une dynamique en termes de confiance qui est très forte, qui a porté 2017 de manière extrêmement puissante et qui risque, c'est un risque positif, mais qui risque de porter 2018 de manière aussi puissante dans les mois qui viennent.
L'horizon se dégage, Olivier Lecomte ?
Ah ben, il est clair que, comme ça a été dit, on a un alignement de planète tout à fait exceptionnel. L'effet Macron est réel, c'est au sens où je pense que depuis longtemps, on n'a pas eu un gouvernement et un exécutif qui soit autant pro-business. Et je pense que pour les décideurs économiques, hein, les chefs d'entreprise, enfin, tous ceux qui engagent, j'allais dire, des entreprises pour le long terme, qui investissent, ils peuvent se dire qu'au moins pour les 4 ans qui viennent, on devrait avoir une bonne stabilité des politiques macroéconomiques, fiscales, etc.
Ça, pas d'aller-retour, voilà.
De grands changements de barre à droite, barre à gauche, comme on a pu le voir malheureusement dans les quinquennats précédents. Donc ça, c'est extrêmement favorable pour donner de la confiance aux entreprises, leur permettre d'investir. Alors en revanche, moi je vois des freins potentiels qui sont le fait que ces longues années, ces 10 années de quasi-stagnation, ou en tout cas de très faible croissance, ont été doublés d'une détérioration, je vais dire, du capital en France, du capital matériel et immatériel. Hein. Donc, manque d'investissement dans les entreprises, donc avec des outils de travail qui arrivent vraiment à bout de souffle. On le voit aussi dans les infrastructures, les mésaventures de la SNCF cet été en sont une bonne illustration. Et puis, détérioration du capital immatériel, c'est-à-dire du capital humain.
Eh oui.
Des pertes de qualifications.
Aussi difficultés de recrutement.
Difficultés voilà. de recrutement.
Est-ce que vous dites qu'il sait le mettre en avant
et
aussi.
Et ça pourrait être un vrai frein à une accélération de la croissance. Je pense effectivement, comme le disait Emmanuel, qu'on est sur un momentum qui est très favorable. Le seul risque serait qu'il se brise, ou en tout cas s'amoindrisse par manque de capital humain.
On va voir les nuages. Pascal Imbert à la tête de Wavestone. Alors c'est vrai que les grands cabinets de conseil en stratégie et management, dont vous, hein, vous portez plutôt bien l'activité, ne manquent pas entre les sujets de big data, de cybersécurité, d'internet des objets, de robotisation. Est-ce que tout ce qu'on dit avec nos amis économistes, experts, vous le voyez bien entendu?
Ah oui, ce qui est extrêmement frappant, en ce moment dans les entreprises, c'est la confiance qui se traduit par des investissements. Et vous savez, le conseil, c'est un très bon baromètre de ce qui se passe dans les entreprises. Quand le conseil tire comme il tire depuis 2016, 2017 a été une année excellente et 2018 se présente sous les mêmes auspices, ça veut dire que les entreprises sont tournées vers des projets de croissance, elles sont en train d'investir, elles sont en train effectivement de renouveler leur capital de production pour arriver à générer la croissance des années qui viennent. Et donc, pour l'instant, on est dans une dynamique qui est extrêmement positive. Et je dirais quand même que les entreprises, par ailleurs, au-delà des facteurs psychologiques, au-delà de la croissance qui tire l'économie en France, les entreprises ont fait le boulot. Pendant des années, elles ont rationalisé, elles ont optimisé leurs moyens de production, elles ont optimisé leur efficacité opérationnelle, elles se sont désendettées, elles ont dégagé des moyens pour restaurer leurs marges. Et aujourd'hui, elles sont parfaitement affûtées, elles ont les moyens de se projeter en avant, de dégager des
jusqu'à une certaine limite quand même que pointait Olivier Lecomte quand même il y a un instant quand même.
Écoutez, je pense que moi je suis un petit peu moins pessimiste que vous. Je pense qu'on n'a pas encore atteint un haut de cycle, on n'a pas encore atteint des périodes de déséquilibre profond.
Alors attendez, qui prend la parole? Emmanuel, Jean-Michel ou Jean-Michel? Allez-y, bah, Jean-Michel CX.
Non, mais je crois que en Manu. Fait le débat effectivement, il n'est pas tellement sur l'année 2018. Hein. Dans la demi-heure précédente, on avait un débat avec Patrick Artus qui disait dès 2018, la croissance va être bridée par le chômage structurel, par le fait qu'il n'y a pas de main d'œuvre, etc. Moi, je ne crois pas que aujourd'hui, sur les 12 mois qui viennent, l'inertie, enfin l'élan ne soit pas tel qu'on n'arrive pas à 2-2,5% de croissance. Mmh. Le vrai sujet, c'est pas de 2018. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe après et sur quelle trajectoire, sur quelle orbite on met l'économie française. Or, sur tous les problèmes qu'on a évoqués, que ce soit la qualification des salariés, etc., on est quand même sur des sujets sur lesquels, quoi que Emmanuel Macron fasse, de toute façon, avant que ça produise des résultats, parce que la tarte à la crème aujourd'hui, c'est la formation, hein, puisque tous ces problèmes se résument finalement à des problèmes de formation. Mais ça, c'est quand même des sujets sur lesquels on voit mal obtenir des résultats avant 3 à 5 ans.
Et notamment sur le fonds de chômage.
Dans le meilleur des cas. Donc là, c'est vrai que on risque de buter quand même sur une limite, sachant qu'au niveau mondial, on n'a pas évoqué beaucoup.
Moi, je pense. Attendez, on a le temps. Oui, il y a le niveau. Mais simplement sur le chômage, c'est vrai que la Banque de France voit seulement à l'horizon 2020 le taux de chômage passer sous la barre.
Oui, parce que là, il y a l'effet contrat aidé. Il y a l'effet débranchement des contrats aidés, perfusion des contrats aidés
donc
en moins.
Ça monte et ça redescend.
Voilà.
Jean-Michel, le risque de ce point de vue-là, c'est qu'en météo, vous savez, parle du ressenti et de l'observé.
C'est vrai.
Et je pense qu'effectivement, on risque dès 2018 de commencer à voir dans l'opinion publique peut-être, enfin c'est une crainte que j'exprime plutôt qu'un pronostic, mais le fait que d'un côté vous entendez sur BFM, et voire même dans d'autres stations, effectivement la croissance de 2%, on est revenu à un prêt 2008, etc. Et d'un autre côté, dans ma famille, moi je vois un tel et un tel qui ont toujours pas retrouvé de travail ou qui a un contrat temporaire. Ça, c'est le ressenti. L'observé, c'est le taux de croissance. Le ressenti, c'est moi, qu'est-ce que je vois concrètement dans mon environnement. Et là, il y aura fatalement un décalage qui va apparaître assez rapidement. Parce que d'ores et déjà, alors bien sûr, il y a toujours des explications techniques, je suis d'accord avec Emmanuel, le fait de débrancher tel ou tel emploi aidé, etc., d'accord. Mais les raisons techniques, on en trouvera toujours. Néanmoins, il est forcé de constater que le ralentissement du chômage n'est pas parallèle à l'accélération de la croissance.
Avec un risque politique nécessairement, Olivier Lecomte.
Oui, et c'est d'autant plus vrai qu'on peut quand même espérer que le gouvernement et Emmanuel Macron vont profiter de cette conjoncture très favorable pour traiter des sujets lourds et anciens sur l'efficacité de la dépense publique, sur l'efficacité des services publics. Et donc, on a aussi...
Tout reste à faire.
Et c'est le moment de le faire. Hein, comme disait un de mes maîtres, c'est quand tout va bien qu'il faut le faire. C'est pas quand on a effectivement
le
chômage qui explose.
C'est le moment d'accélérer les réformes dans ce contexte, Olivier Lecomte.
Et accélérer et s'attaquer vraiment à la question de la dépense publique.
C'est quand même beau qu'il faut réparer la toiture.
Exactement.
A dit Christine.
Eh ben voilà, elle a parfaitement raison. On voit que c'est une grande manuelle.
Oui, pour revenir sur l'expression de croissance ressentie pour les ménages, ça va être 4,5 milliards d'euros d'imposition supplémentaire avec des taxes sur le tabac, sur l'essence, bien entendu,
la CSG,
et puis l'augmentation de la CSG. Donc effectivement, pour ces ménages-là, notamment au premier semestre, puisqu'ils n'auront pas la compensation des baisses des charges qui viendra plutôt en fin d'année, ça va mordre un petit peu. Et comme ça a été dit, il y a encore assez peu de travail qui a été fait sur la dépense publique. On voit pas comment structurellement la baisse des prélèvements obligatoires pourrait s'opérer. Et je pense que c'est là que le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes sur la dépense publique, parce que sans baisse de dépense publique, il ne peut pas y avoir de baisse structurelle de la fiscalité.
Et ça c'est vraiment une inconnue à vos yeux, justement, Olivier Lecomte.
Oui, c'est une inconnue, puisque on n'a pas vu encore vraiment de grande annonce visant à réformer l'État. Enfin, réformer l'État, tout le monde en parle depuis 30 ans, mais je dirais à le faire pour de vrai. Et n'oublions pas en plus qu'on bénéficie au niveau de la dépense publique toujours de cette conjoncture exceptionnelle de taux d'intérêt, qui fait qu'on a une charge d'intérêt sur notre dette de 2000 milliards, enfin plus de 2000 milliards, qui reste très absorbable et qui ne le sera plus d'ici 2 ou 3 ans.
Sur la méthode produit. Macron, on n'est pas très rassuré.
Voilà, c'est le sujet.
Sur la réforme de l'État, quand vous voyez que c'est assez étonnant de voir que d'ailleurs toutes les grandes institutions internationales, les grands cabinets de conseil, ils ont étudié des dizaines de réformes dans des dizaines de pays pendant des dizaines d'années. Et on arrive à une dizaine de lois d'airain, finalement, de la réussite de la réforme. Et quand vous voyez la dizaine de lois, bah, vous voyez que Emmanuel Macron, il en satisfait à peu près 3, qui sont la légitimité politique parce qu'il vient d'être élu, la majorité à l'Assemblée, la cohésion de son gouvernement, et puis l'idée qu'on réfléchisse sur l'objectif et pas sur les moyens. C'est-à-dire qu'en gros, on manifestement, il semble qu'on veuille réfléchir sur le périmètre de l'État et pas toujours sur la question des moyens humains et financiers. C'est-à-dire, est-ce que on dépense assez ou trop, ou est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires ou pas assez? Mais toutes les autres conditions qui sont très importantes sont pas réunies. Condition majeure pour réussir une réforme, par exemple, c'est la bonne coordination entre le haut de l'État et le bas de l'État, c'est-à-dire entre les collectivités et l'État central. La condition, elle est pas réunie. Autre condition très importante, c'est que il est très dangereux d'entreprendre plusieurs grandes réformes en même temps. Là, on voit qu'on a plusieurs chantiers qui sont plusieurs chantiers qui sont quand même très
le travail, la fiscalité, etc. La formation, l'apprentissage.
Et vous avez l'expérimentation, la pédagogie. Or, il n'y a pas de pédagogie qui est faite aujourd'hui auprès des fonctionnaires et auprès des usagers. Or, c'est la seule condition pour faire une réforme. Tous les pays qui ont réussi des réformes, ça a marché comme ça.
On explique.
Or, aujourd'hui, vous avez chez les fonctionnaires une espèce de fatigue de la réforme. Parce que toutes ces années de reformus interruptus, si vous voulez, ça a épuisé tout le monde, et que les fonctionnaires aujourd'hui, ils ne croient plus à la réforme. Or, si vous ne les embarquez pas dans la réforme de l'État, il n'y aura pas de baisse de la dépense publique.
Jean-Michel Zix.
Prenons un exemple concret, parce que quand on parle du ressenti et de l'observé, il y a des exemples concrets. Tu parlais à l'instant, à fort juste titre, de l'efficacité de la dépense publique. Je pense qu'au mois de décembre, on a tous été extrêmement choqués de voir la façon dont les gens ont été transportés par cette grande entreprise nationale qu'est la SNCF. Voilà un exemple merveilleux de l'efficacité ou de l'inefficacité relative de la dépense publique. Bon, par rapport à ça, je pense que là, il y a un véritable enjeu démonstratif. Que va-t-on faire à la SNCF concrètement pour que les gens aient un ressenti meilleur, même si ça prend du temps, qu'ils voient que quand même il y a des vrais efforts qui sont faits, des sanctions prises dans le cas échéant? Ou est-ce que c'est un peu, je crains ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais je veux pas être trop conclusif, ou alors est-ce qu'on va retomber dans le système des audits? On va faire un comité, trois audits.
Un comité sur les gares, un comité sur les trains et un comité sur les aiguillages.
Rappelons quand même que...
Alors Olivier Lecomte et Benjamin Frémaux.
Un tout petit trait d'humour, mais qui a un an et demi quand même. François Hollande faisait acheter à la SNCF des TGV pour les faire rouler sur des lignes secondaires. Donc effectivement, on vient très très loin quand même.
Benjamin Frémaux.
Moi je serais un peu moins sévère. Je pense que le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, ont utilisé la légitimité de l'élection pour prendre des décisions assez courageuses, notamment de rééquilibrage de la fiscalité ménage-entreprise. Honnêtement, c'était pas facile à faire. Ça a été fait. Et ils ont engagé un processus qui est long, et c'est vrai pour l'État, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle entreprise. Lorsqu'on veut se réformer en profondeur, eh ben, il faut étudier le problème en profondeur, il faut concerter. C'est ce que fait Édouard Philippe avec Cap 2022.
Oui, mais Cap 2022, l'idée, c'est d'aboutir à une réforme d'ici le printemps.
Mais je dis pas le contraire.
Or, ça doit pas être la réforme de l'année, la réforme de l'État. Ça doit être la réforme d'au moins le quinquennat.
Eh ben, attendons de voir. Je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute.
Oui.
Parce que ces réformes-là en profondeur, celles qu'on attend, notamment pour la baisse de la dépense publique, ça prend un tout petit peu de temps à préparer et ça prend encore un peu plus de temps à mettre en œuvre.
Pascal Imbert, on en fait de quoi de cette croissance ?
Alors, moi, d'abord, je trouve que vous êtes un petit peu sévère et un petit peu trop pessimiste. On a quand même déjà réussi quelque chose de fantastique depuis l'année dernière, c'est qu'on a remis les entreprises en marche et dans une attitude offensive.
En marche.
Ça, c'est fantastique. On a
merci
un moteur.
François Hollande, quand même, un peu.
Oui. Parfait, mais là, je ne porte pas de jugement politique. Je suis simplement en train de dire que le moteur des entreprises a réussi à démarrer. Et pour aller dans votre sens, il y a une grande réussite du quinquennat Hollande qui a été la French Tech, qui a été tout à coup, on a ressuscité en France l'envie d'entreprendre. Il y a un véritable succès, un véritable engouement pour la création d'entreprises qui s'est dégagé autour de la French Tech. Donc, on a un monde entrepreneurial qui est en train de retrouver des couleurs, qui va être certainement un moteur de la croissance dans les années qui viennent. Alors bien sûr, il y a plein de problèmes structurels à traiter, mais déjà, essayons de tirer parti au maximum de ce moteur structurel. Les grandes entreprises sont en train de faire des investissements qui vont générer de la croissance et alimenter la croissance des années qui viennent. Les start-up sont en train de préparer les futures entreprises qui demain, je l'espère, vont devenir des ETI et créer massivement des emplois. C'est d'ailleurs sans doute l'étape à laquelle il faudrait maintenant s'intéresser, de s'assurer que toutes les start-up qu'on est en train de créer aujourd'hui, celles qui réussissent, on arrive à les faire grandir et à les faire passer dans le stade d'ETI où on sait que c'est là que massivement les entreprises créent de la croissance et créent de l'emploi. C'est très difficile de créer de l'emploi dans des grandes entreprises. Les start-up créent relativement peu d'emplois, mais par contre, si on réussit à susciter des champions et à leur faire prendre leur essor, on va effectivement générer massivement de la croissance et de l'emploi.
J'écoute Pascal Imbert, le patron de Webstone, Jean-Michel Six ou Olivier Lecomte. C'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui expliquait qu'on assiste à une croissance plus équilibrée qu'auparavant au sein de la demande intérieure. L'investissement, notamment des entreprises, prend le relais de la consommation et la composante extérieure devrait peser moins négativement. Ça, c'est vrai
Oui, c'est incontestable. Olivier Lecomte. Je crois que, mes propos ne sont pas pessimistes. Ils sont plutôt de rappeler qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et qu'on a vu trop souvent en France des gouvernements, justement, qui, face à une conjoncture un petit peu plus favorable, un chômage qui diminue un petit peu, des dépenses publiques qui se portent mieux parce que il y a plus de croissance, plus de rentrées d'argent, se disent, bon, on va se contenter de tout ça. Et n'oublions pas que dans deux ans, on va recommencer un cycle électoral. Donc, Chirac, enfin, tout le monde. Ouais. Donc, la fenêtre est très étroite. Si on n'engage pas les choses maintenant, dans le premier semestre 2018, quelque chose d'un peu ambitieux, après,
oui, mais vous disiez, pardon,
on risque vraiment de se laisser
Emmanuel
emporter.
Par... Il y a peut-être trop de réformes menées en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait.
Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de significatif.
Il y a un dosage à trouver. On mène des réformes de front, nombreuses.
La question de la dépense publique, pour moi, elle n'a pas été abordée. Alors, peut-être pas l'aborder sous ce libellé-là, parce que ça n'excite pas beaucoup les gens de dire qu'on va réduire les dépenses. Mais en tout cas, il faudrait vraiment engager.
Mais la seule façon d'abord de réussir cette au départ, ce dont les gens ne sont absolument pas convaincus, c'est cette idée qu'on peut à la fois dépenser beaucoup moins et avoir un service public de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le service public qui est au contact des Français est totalement paupérisé. Donc qu'est-ce que voient les Français au quotidien ? Des policiers qui roulent dans des voitures pourries, des prévenus qui sont libérés parce qu'il n'y a plus de papier dans les fax et qu'il y a eu un vice de procédure, que les gardiens de prison vivent dans des conditions épouvantables, que les profs sont sous-payés et surmenés. Je vous parle même pas des policiers et des infirmières. Et donc, forcément, les Français, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils disent, bah oui, il y a un manque d'argent. Alors qu'en fait, il y a un manque d'argent en front office, mais le back office absorbe des quantités absolument considérables d'argent par son inefficacité, sa rigidité, la complexité de son organisation, de son administration, etc. Et donc, réussir à faire comprendre aux Français qu'on peut... et dépenser moins, mais ça demande une vraie révolution culturelle. Et pour moi, la seule façon de prendre le problème, c'est de dire aux fonctionnaires, on va bâtir ensemble l'administration du 21e siècle.
Et la rendre plus agile.
Vous serez gagnant parce que vous aurez un boulot plus intéressant et mieux payé, que les Français auront un meilleur service. Mais si vous prenez le problème par le point d'indice des fonctionnaires, par la dépense publique en point du PIB, c'est trop, il faut absolument la baisser, et le nombre de fonctionnaires, il faut le réduire, je pense qu'on s'en sortira pas.
Vous qui travaillez là-dessus à l'Institut Montaigne, Benjamin Frémaux.
Non, mais moi, je pense que le séquençage très rapide des réformes mises en œuvre par le gouvernement Édouard Philippe, par Emmanuel Macron, c'est une bonne chose. C'est-à-dire engager de manière successive plusieurs réformes de fond est absolument clé. C'est bon pour la pédagogie. Ça permet effectivement, dans une séquence, on va dire, très, très bien définie, d'expliquer pas à pas ce que le gouvernement fait, et ça permet de paralléliser plusieurs réformes importantes. Je pense que c'est indispensable. On peut pas attendre que une réforme du marché de la formation professionnelle, par exemple, soit terminée pour engager une réforme de fond de l'administration française. Le point que fait Emmanuel Chypre me paraît néanmoins bon, c'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à une réforme structurelle de l'organisation de l'État et des collectivités territoriales, des administrations publiques, on n'arrivera pas à faire baisser la dépense publique. Mais encore une fois, je pense qu'il faut attendre de voir ce que peut proposer Édouard Philippe et son gouvernement avant de juger.
Alors un mot, Jean-Michel Six, et puis on se retrouve dans un
tout
instant.
À fait d'accord. Je pense que quand on regarde l'expérience suédoise, par exemple, dans les années 90, d'un pays qui s'est considérablement réformé, eh bien vous voyez que ça n'est pas tellement le nombre des réformes, c'est-à-dire il faut en faire une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, comme ça, et ça fait quatre quinquennats de suite, mais plutôt la pédagogie, c'est-à-dire vraiment un énorme travail d'explication. Et quand vous demandez aujourd'hui aux anciens dirigeants suédois de tirer un peu les leçons de ce formidable redressement de l'économie suédoise, qui a, comme on l'a vu, surperformé pendant toute la crise, hein, et bénéficiant de tous ces efforts, ils vous disent, le premier mot qui leur vient à l'esprit, c'est pédagogie. Pédagogie et pédagogie. Il faut vraiment que les gens comprennent effectivement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et quels seront les indicateurs de réussite ou pas.
Bon, on va se retrouver dans un instant. Oui, en quoi 2018 est une année à ne pas gâcher pour la France. On verra justement que la France aussi peut-être peut constituer une sorte de pôle de stabilité avec le Brexit d'un côté, les errements de Trump de l'autre, l'Allemagne qui se cherche un gouvernement. On va voir. Restez avec nous avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, 2018 qui démarre sous les bons auspices avec une croissance qui va se confirmer à la hausse. Alors jusque où, on ne sait pas, 2% plus, on verra évidemment. Bon, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu fragile évidemment, est-ce qu'il ne faut pas accélérer les réformes, s'attaquer davantage à la dépense publique? En tout cas, il y a pour l'instant un alignement de planètes, je reprends l'expression de, je crois c'est Olivier Lecomte qui nous en parlait tout à l'heure. Oui, Jean-Michel Six avec nous quand même, chef économiste de S&P Global Ratings, agence de notation bien entendu. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a de la liquidité qui afflue, c'est bien, à destination des entreprises. Attention quand même, je lis ce que disait fin décembre le Haut Conseil de stabilité financière, qui jugeait nécessaire de freiner le crédit aux entreprises en France. C'est une première, c'est une telle déclaration. Trop de dettes du côté des entreprises, trop de crédits distribués par les banques, et d'ailleurs l'économiste Mathilde Lemoine de chez Edmond Rothschild le disait dans le Figaro. Le crédit aux entreprises a augmenté depuis un an de presque 6%. C'est 3 points de plus que la moyenne de la zone euro. Est-ce que le crédit bancaire tourne trop vite en France, Jean-Michel Six? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment, si les taux remontent, qu'on se prenne un peu la porte dans la figure?
Alors, d'abord, regardons pourquoi les taux remonteraient. Et après, on répond à la deuxième partie, s'ils remontent.
Je ne sais pas, phénomène géopolitique.
Pour aujourd'hui, alors moi, je voudrais souligner dans ce débat quand même que le risque principal aujourd'hui dans la reprise, sans vouloir en exagérer l'importance, mais quand même, c'est un risque exogène à la zone euro. C'est, à mon avis, ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration aux États-Unis qui est extrêmement particulière, où vous avez une relance fiscale dont vous avez débattu avant Noël,
tout juste,
et qui est quand même une relance assez massive, de
1 450 milliards de dollars sur
vous avez. Vous avez d'autres, donc ça c'est, on appuie sur l'accélérateur. D'un autre côté, vous avez la réserve fédérale qui tendrait à augmenter les taux. On n'est pas très sûr de quelle vitesse, mais quand même. Vous avez des taux longs qui restent extrêmement bas, qui en soi prédirait presque une récession, alors que personne ne voit de récession l'année prochaine, cette année maintenant, aux États-Unis. Et puis une début de reprise de l'inflation avec en particulier un dollar qui est quand même assez faible, relativement faible. Tout ça peut très bien conduire à un scénario à la 94 dans lequel à un moment donné les marchés obligataires se disent mais attention, là on est en pleine surchauffe, il y a de l'inflation, il y a un déficit fiscal qui augmente considérablement parce qu'il va augmenter, il est déjà à 4,4%, by the way, comme on dit. C'est quand même beaucoup plus que les moyennes européennes. D'autre part, vous avez une inflation qui reprend, donc les vigilantes sur le marché obligataire commencent à réagir et ça peut être assez violent. Donc, forte remontée des taux, brusquement des taux longs. Et ça, c'est vraiment le crack. C'est le scénario un peu catastrophe. Encore une fois, c'est pas notre scénario central, mais je crois qu'en matière de risque, c'est probablement l'un des scénarios les plus importants à contempler.
Pour ce qui est de la demande, voilà donc pourquoi les taux pourraient remonter.
Les conséquences, c'est évidemment que jusqu'ici, la demande de crédit par les entreprises est d'autant plus forte que les conditions de financement sont excellentes. Facile. Et que d'autre part, comme il a été rappelé, les perspectives de demande sont quand même relativement bonnes, et en particulier dans le plan investissement, formation, etc., il y a des vrais besoins. Donc là, effectivement, cette demande de crédit en soi, elle est, moi je dirais, plutôt légitime. On est quand même, on vient encore une fois d'une période de pénurie, d'une période de faible croissance, faible du crédit et de l'économie en général. Par ailleurs, il faut quand même dire aussi que les grandes entreprises, peut-être pas les petites, bien sûr, mais les grandes entreprises se financent de plus en plus sur le marché des capitaux, pas seulement auprès des banques. Et ça peut leur donner quand même une certaine stabilité. Et ça, c'est un phénomène qui est assez propre à la France. Donc je dirais, côté, dans votre question, le côté taux, oui, c'est une véritable vulnérabilité.
Ça peut remonter.
Côté banque, je pense qu'il y a quand même eu des macro-prudences et des mesures qui ont été prises. Pour l'instant, on n'est quand même pas à la veille d'un gros accident.
Benjamin Frémaux, associé de la banque d'affaires, Messier Maris, associé, et juste après Olivier Lecomte, qui est prof de finance.
Ce qui est clair, c'est que les taux bas, c'est ce qui a permis en Europe, mais notamment en France, un marché des fusions-acquisitions qui a été florissant en 2017. On est à plus 50% en volume de transactions sur l'année 2017, et on s'attend pour 2018 à un bon cru pour les mêmes raisons, à savoir un coût du financement qui est très faible. Alors c'est clair que la question se pose, notamment pour ceux qui ont connu la crise de 2008, est-ce qu'on va pas se retrouver dans un schéma où les entreprises s'endettent trop pour les acquisitions qu'elles font, que ce soit en France ou à l'étranger, et en même temps étant vaccinées d'une certaine manière parce qu'elles ont déjà vécu il y a moins de 10 ans, il y a de fortes chances pour que leurs investissements aient été orientés vers des secteurs soit très très stables, c'est notamment le cas dans le secteur de l'infrastructure, très résilient, ou sur des géographies qui permettent justement de diversifier leurs risques. Et c'est ce qu'on a vu notamment en 2018 avec beaucoup de groupes, de grands groupes français très offensifs à l'international. Je pense à Peugeot sur qui a acheté Opel, Suez qui achète G Water. Il y a des exemples comme ça. Il y en a une petite dizaine. C'est très positif pour l'économie française. Et il faut s'en satisfaire.
Olivier Lecomte, Emmanuel Lechypre.
Oui, moi je pense que la question de l'endettement des entreprises, elle peut pas être découplée de la question des capitaux propres. Hein. Autrement dit, est-ce que les entreprises, et notamment les entreprises moyennes, petites et moyennes, parce que les grandes, elles trouvent à se financer sur les marchés sans trop de difficultés aujourd'hui, mais est-ce qu'elles peuvent avoir accès à des capitaux propres, en quantité suffisante? C'est un problème lancinant des entreprises françaises depuis 40 ou 50 ans. Hein. Ça tient notamment justement au fait qu'on n'a pas d'épargne de capitalisation du type fonds de pension. Et je crois que de ce point de vue, d'ailleurs, on parle de pédagogie tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie faite par le gouvernement autour des mesures concernant l'ISF, par exemple, hein, puisque le but, quand on veut taxer l'investissement dans l'immobilier, c'est pour justement, au contraire, inciter les gens fortunés à aller investir en equity, donc en action, je veux dire, dans des entreprises. Donc, il faut qu'on... Et de la même manière que le fait de remettre la flat tax sur les revenus des capitaux immobiliers peut être très positif. Donc, je crois que c'est un des sujets qu'il faut traiter, qui donc fait que la question de l'endettement des entreprises me paraît pas préoccupante si on parvient à injecter un peu plus de capitaux propres dans les boîtes.
Benjamin Frémaux et juste après Emmanuel.
Très rapidement, ce qu'on a vu en France et en Europe, notamment en France, c'est des levées de fonds qui s'investissent ensuite dans le non-coté, qui sont spectaculaires, historiques. Donc ce sujet-là de l'accès au capital, historiquement la bourse ou la banque, il y a un troisième pilier qui est extrêmement puissant en 2017 et qui le restera en 2018, c'est le capital non coté, le private equity ou le capital développement qui restera très puissant tant que le coût de capital sera bas.
Emmanuel Lechypre.
Justement sur les risques, moi je crois que la question qui va quand même agiter l'année et qui rejoint ce que disait Jean-Michel, c'est qu'il va y avoir une fébrilité autour de la question quand même de l'inflation. Parce qu'il y a quand même pas mal de raisons. Si vous mettez dans la colonne les raisons pour lesquelles l'inflation pourrait accélérer, bah vous en trouvez quand même quelques-unes. Hein. La croissance généralisée, le plein emploi dans beaucoup de pays, les matières premières. Et puis quand vous regardez dans la case ou dans la colonne pas de risque d'inflation, vous avez quand même finalement des coûts salariaux encore très bas. Vous avez toute la révolution digitale, etc. Et donc, moi je crois qu'il va y avoir une fébrilité autour de cette question. Et donc effectivement, le scénario noir, c'est un scénario où, par exemple, la Réserve fédérale décide, avec ses nouveaux membres, hein, qu'on ne connaît pas encore, de changer le calendrier de resserrement monétaire, de provoquer une certaine inquiétude. Après, il y a qu'est-ce qui va se passer au niveau de la liquidité mondiale. Moi, je crois que tant qu'elle reste aussi abondante, on a quand même un filet de protection qui est absolument considérable et qui peut pas se passer grand-chose de très grave. Alors, s'il y en a pas plus qui vient des États-Unis, pas plus qui vient d'Europe, on voit bien qu'au Japon, on voit pas pourquoi ils fermeraient le robinet, et qu'on est quand même sur un... Et quand même, ce qui compte, c'est la liquidité mondiale au total. Et que si jamais il y avait quand même un resserrement, moi je pense que ça viendrait. Je pense qu'il y a suffisamment de demandes privées qui prendraient le relais de la demande des banques centrales, parce qu'il y a une grosse demande aujourd'hui de titres d'État sûrs, et que donc il n'y aurait pas vraiment de risque. En revanche, moi je pense que ce qu'on va voir, c'est une espèce de re-hiérarchisation des primes de risque entre les actifs risqués et moins risqués. Hiérarchie qui est aujourd'hui totalement écrasée.
Écrabouillée.
Et que donc ça, c'est plutôt un risque, à mon avis, pour l'année.
Pascal Imbert à la tête de Wavestone.
Oui, et puis je voudrais surtout insister sur le fait que pour l'instant... On n'investit pas parce que les taux sont bas, on investit parce qu'on a des projets de développement qui justifient ces investissements. Donc on est encore dans une dynamique qui est une dynamique vertueuse. Aujourd'hui vertueuse, et je ne vois pas effectivement qu'on rentre dans un mécanisme de bulle à court terme dans les 1 à 2 ans qui viennent, parce que il y a un phénomène de rattrapage, il y a des transformations considérables à réaliser dans tous les secteurs d'activité à cause de la révolution numérique, la révolution digitale. Donc je pense qu'on n'est pas encore dans un phénomène effectivement de d'investissement et de d'utilisation des taux bas qui ferait monter la courbe d'investissement.
Pas d'accord, Jean-Michel Six.
Non, mais je pense que là il y a une vraie question, et je voudrais rebondir ce que vous disiez.
Je disais Benjamin Frémaux.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire, effectivement, à quoi sert l'endettement supplémentaire des entreprises. Et là, quand vous regardez encore une fois l'exemple américain, il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter. La hausse de Wall Street, qui est quand même une hausse phénoménale, est largement alimentée par des share buybacks, des rachats d'actions et des augmentations de dividendes qui sont elles-mêmes financées par un endettement accru. Rien que l'année 2017, c'est 600 milliards de dollars de rachats d'actions à Wall Street. Bon. Donc, ça veut dire que là, il y a quand même une partie. Il y a ce que j'appellerais, si vous voulez, une dictature de l'actionnariat qui force beaucoup de dirigeants d'entreprise à se concentrer sur les deux trimestres qui viennent. Auquel cas, la seule solution vraiment pour faire monter le titre et gonfler les dividendes, c'est de s'endetter. Mais là, c'est 2007, c'est vraiment le scénario noir. Ou alors, le scénario que vous décrivez, les deux sont pas incompatibles. La question, c'est lequel l'emporte sur l'autre. Ou alors, ils s'endettent vraiment pour investir, etc. Pour ce qui est des US en particulier, j'avoue que je suis un peu inquiet que ce soit le premier scénario plutôt que le deuxième qui prenne de l'ampleur.
Juste avant qu'on se quitte, les conséquences... Comment on va profiter de cette croissance? On a parlé des emplois qui n'arrêtent pas tout de suite. Hein. Emmanuel Le Chip, vous le disiez tout à l'heure, les investissements qui sont lancés, qui vont continuer, qui vont s'accélérer. Est-ce que ça va donner de la marge de manœuvre au gouvernement d'un point de vue de recettes fiscales? Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris. Alors on ne parle pas du mot interdit, cagnotte. Hier, Édouard Philippe, dans le JDD, a fermé apparemment la porte. Il a dit il n'y a pas de cagnotte quand depuis 40 ans, on dépense bien plus qu'on ne gagne. Hein. S'il y a de bonnes nouvelles sur les recettes, on va accélérer le désendettement. Donc,
Je ne peux que reprendre les propos du Premier ministre. À mon compte. Évidemment, on va pas refaire le débat avec Michel Rocard, il y a une dizaine d'années, enfin une vingtaine d'années, pardon. Oui, oh là là, mon Dieu, le temps passe. Où effectivement, c'était la droite d'ailleurs qui avait à l'époque attaqué sur le thème de la cagnotte.
C'est Chirac qui avait attaqué Jospin.
Oui, Jospin, absolument. Voilà, sur le fait qu'on avait en fait un moindre déficit et donc qu'il fallait distribuer ce moindre déficit, ce qui est quand même un raisonnement. Oui, très beau, très gros, belle.
Darmanin, quand même, qui est le ministre des comptes publics, hein, quand même, explique, il défend la position d'une responsabilité budgétaire qui prévoit, dans le cas d'un surplus de recettes fiscales ou sociales, de répartir pour éviter des débats que pourraient pousser quelques-uns. Genre président des riches, par exemple.
Hein. Oui, enfin bon, on a quand même plus de 2000 milliards de dettes, donc on pourra toujours discuter après.
Mais Olivier, mais,
c'est vraiment une cagnotte si quand jamais... on a décidé de plus de
non, le seul truc. La question, c'est si jamais on nous met en face une vraie réforme.
Oui, exactement, voilà. Je suis tout à fait d'accord.
Et que, allez, laisser un petit peu de marge, un petit peu de mou qui permet de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Mais si c'est au prix d'une vraie réforme, etc., moi je dis,
on ne
nous arc-boutons pas.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Si
ça permet de fluidifier.
Voilà.
Benjamin Frémaux,
dans le passé, ça s'est pas passé.
Je suis assez d'accord avec Emmanuel. Je pense que si cagnotte il s'agit de capital confiance qu'il faut utiliser pour faire des réformes de structure. Et ensuite, comme dans n'importe quelle entreprise, lorsqu'on engage un plan de restructuration, au départ, c'est un investissement. Ça coûte. Donc ce ne serait pas scandaleux.
Mais tout ça pour dire que la réponse d'Edouard Philippe, ce sera le désendettement, ce n'est pas forcément la bonne réponse.
Je suis d'accord. Tout à fait. Et donc là, on peut imaginer effectivement que l'État investisse dans ses réformes de structure si effectivement des bonnes nouvelles apparaissent. Mais de toute façon, il faut qu'il utilise la cagnotte capital confiance qu'on a acquise la fin d'année 2017 pour l'année 2018. Au plus vite.
D'où cette idée de 2018, une année à ne pas gâcher. Une année à ne pas gâcher aussi pour la France, avec autour d'elle, qu'est-ce qui se passe ? Le Brexit, avec cet inconnu Brexit, évidemment, en direction de mars 2019. Les errements de Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. Le gouvernement allemand qui se cherche, est-ce que Mme Merkel va constituer une majorité ?
Et les élections italiennes.
Et les élections italiennes, bien entendu, vous avez raison, Jean-Michel Sic. Est-ce que la France fait figure de pôle de stabilité, est-ce qu'elle doit en profiter justement ?
Enfin, si c'est à moi que vous posez la question, la réponse est absolument évidente, bien entendu. Mais je crois entendre quand même depuis 9 mois, disons depuis la campagne, que les dirigeants réalisent qu'il y a une opportunité extraordinaire et que la gâcher serait non seulement scandaleux, mais terrible sur le plan de la montée d'opposition qu'on ne souhaite pas forcément voir arriver en force.
Et les dirigeants, notamment Emmanuel Macron, l'ont tellement bien compris que c'est bien pour ça qu'il peut se présenter en Chine, non seulement en tant que président de la France, c'est une évidence, mais aussi comme porte-étendard d'une Europe qui avance.
Qui veut se former avec lui.
C'est clair qu'il joue à plein pour le président de la République, il joue à plein pour la France, il faut qu'on en profite.
Pascal Imbert, Weston.
On a vraiment une opportunité historique entre les mains. Et effectivement, je dis nous avons une opportunité historique, parce que ce n'est pas qu'une question du gouvernement. Bien sûr, il veut engager les réformes de structure qui nous ont manqué depuis des années. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs économiques de chercher à tirer au maximum parti de cette conjonction de facteurs favorables qu'on n'a pas connue depuis une dizaine d'années.
Allez, vous concluez. Emmanuel Lechypre, Olivier Lecomte. Olivier.
On a une jolie brise de travers avec une mer plate, donc c'est le moment d'avancer à fond et d'avoir un équipage justement qui s'engage et qui reste extrêmement cohérent. Je crois d'ailleurs que de ce point de vue, on peut saluer quand même le fait qu'on a un gouvernement qui a fait très peu de couacs par rapport à ce qu'on a pu connaître. Souvenez-vous quand même, des Palinodi, des Rau, etc. Pour l'instant, ça se tient bien et je crois que ça, c'est une dimension essentielle justement pour mener des réformes.
Emmanuel Lechypre.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on s'aperçoit que faire des réformes structurelles quand vous n'avez pas d'élan, c'est quand même très compliqué. Et là, si on peut profiter de l'élan que nous donne un petit peu le cycle économique, grosso modo, pour effectivement enclencher des vraies réformes, ce serait une garantie pour les 30 années qui viennent.
Bravo les amis. Merci Jean-Michel Sic avec nous, chef économiste de l'agence de notation S&P Global Ratings, celui qui conseille les grandes entreprises vers leur transformation numérique. C'est Webstone, c'est Pascal Imbert, donc à la tête de cette entreprise, Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, et Benjamin Frémaux, qui est associé dans la banque d'affaires Messier, Maris et associé, et puis également membre de l'Institut Montaigne. Les décodeurs de l'écho reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.